La librairie francophone avec le samedi culturel, le rendez-vous littéraire du temps.
Librairie francophone, radio-télévision suisse, Radio-Canada, RTBF, Radio-France. La librairie francophone. Emmanuel Kérade.
Et bonjour à tous, bienvenue dans votre librairie francophone. Au sommaire cette semaine, le nouveau roman de Laurent Godet qui nous fait assister à la mort et à la succession d'Alexandre le Grand. Un grand roman justement qui attire notre attention sur une partie de l'histoire de l'humanité et des relations entre l'Orient et l'Occident. Il a 23 ans et publie déjà son deuxième roman. Le Canado-Suisse Quentin Mouron nous emmène dans une forêt du Québec avec des personnages qui ont renoncé à leurs rêves. Renoncer à ses rêves, sagesse ou résignation, c'est l'une des questions que nous poserons. Et puis nous irons dans l'appartement de Jacques Prévert à Paris. Prévert, voisin de Boris Vian dans la cité Véron, derrière le Moulin Rouge. Prévert, inconditionnel de l'amitié. L'amitié dont il sera question avec la spécialiste Carole Rouet, qui publie deux livres magnifiques sur l'artiste. Un entretien exceptionnel réalisé dans un lieu chargé d'histoire et d'émotion.
La librairie francophone, une émission diffusée sur trois continents. En Suisse, sur RTS la première, au Canada sur la première chaîne de Radio-Canada, en Belgique sur RTBF la première, en Afrique et dans toute l'Europe sur RTBF international, en France et dans les départements d'outre-mer sur France Inter. La librairie francophone. Emmanuel Kérade.
Et tout de suite, on débute par les meilleures ventes en Belgique et au Canada. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel Kérade.
Comment allez-vous ?
Je vais bien.
Vous êtes dans la librairie La Licorne à Bruxelles, dans votre librairie aujourd'hui. Voilà. On vous demandera de nous passer un client, tiens peut-être tout à l'heure.
Ah ben d'accord.
Exercice de style. Quel est le livre numéro un des ventes chez vous, Déborah ?
Ah ben alors, sans hésitation, c'est le livre Congo de Van Reybroek, qui est sorti chez Actes Sud. C'est un très très gros livre qui fait vraiment vraiment l'actualité chez nous. C'est une histoire du Congo racontée par un journaliste historien flamand d'origine hollandaise, je pense. Il remet tout ça dans le contexte, mais avec beaucoup de détaillements historiques, avec des enquêtes faites sur place,
d'accord,
etc. Donc c'est un livre qui semble mettre tout le monde d'accord.
Congo, une histoire aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup Déborah. On quitte la Belgique pour le Canada. Bonjour Manon Trépanier.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie À Lire. Quel livre est en tête des ventes à Longueuil, dans la banlieue de Montréal, où vous êtes en ce moment aussi?
Eh bien, c'est « Lettre à un jeune politicien » de Lucien Bouchard et c'est paru chez VLB. En fait, c'est 9 lettres inspirées du passé politique de l'ancien premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, qui met son éloquence et son expérience au service de la jeunesse, qui s'engage de plus en plus en politique.
Ah oui, on a vu récemment, oui.
Oui, on ne peut que s'en réjouir. C'est vraiment un immense succès parce que c'est déjà la troisième réimpression.
Et c'est aux éditions VLB éditeur. Merci Manon. Avec nous pour vous accompagner tout au long de l'émission, il y a Laura Sanchez en Suisse. Bonjour Laura.
Bonjour Emmanuel.
Et Mathieu Colombe de la librairie Goulard à Aix-en-Provence pour la France. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien apparemment pour vous. Vous avez l'air en pleine forme. Bonjour Laurent Godet.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Mais très bien, je vous remercie.
Nous parlerons de votre nouveau roman tout à l'heure, un roman qui nous glisse dans le personnage et l'entourage d'Alexandre le Grand. Mais avant, nous demandons à l'un de nos invités de nous raconter une histoire ou un souvenir lié à sa vie ou à son livre. Quelle histoire voulez-vous transmettre aujourd'hui, Laurent ?
C'est pas une histoire, c'est que j'avais envie de partager avec vous les affres du titre pour un écrivain, la question difficile du titre. Et moi, j'ai été plongé dans mon chemin d'écriture à tous les cas de figure. Il y a des fois où le titre s'impose avant même le livre, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est toujours un très grand bonheur.
Alors, Ouragan, par exemple ?
Non, malheureusement, non. La mort du roi de Songor. La mort du roi de Songor, je me suis réveillé un jour avec ce petit bout de phrase dans la tête et j'ai écrit le livre ensuite comme pour expliquer ce titre-là. Et puis il y a des fois, et c'est le cas pour Seul Cortège, où le livre s'écrit d'abord et à un moment donné, on se pose la question de bon, alors comment ça va s'appeler tout ça ? Et là, généralement, c'est mauvais signe et on fait des listes et des listes et des listes et ça m'est arrivé plusieurs fois, pas seulement pour ce roman. Et c'est vrai que ça pose, en fait, de manière assez intéressante, je le dis maintenant d'une manière détachée et heureuse avec le recul, mais c'est dur, ça pose la question de la colonne vertébrale du livre. Donc finalement, pour Seul Cortège, c'est imposé, mais ça a été... Ça a été long parce qu'il a fallu expulser 60 pages du manuscrit qui, en fait, n'avait rien à faire là. Et quand j'ai expulsé...
À cause du titre ?
Ouais.
Ah oui.
Non, parce que je ne trouvais pas le titre et c'est vrai que le manuscrit n'était pas encore bien assemblé. J'ai enlevé ces pages et du jour où j'ai fait ce geste-là, le titre s'est imposé et tout s'est mis en place. Et c'est toujours assez rigolo.
Nous parlerons de ce nouveau roman avec vous, Laurent Godet, l'invité de la librairie francophone cette semaine. Avant de recevoir Quentin Mouron, un auteur suisse qui nous emmène dans un petit village canadien, voici le tout nouveau titre de Raphaël. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Fais gaffe, j'ai pas peur. Je t'envoie mon manager. Fais gaffe à l'amour. Un week-end en solo, un charter pour l'amour. Ça sonne comme la mort, tu vois, vibre Lula. Trop de blues dans nos combats, de loose, de dog, de rhum au fleuve épuisé. Hey, 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 hey. Un low cost pour l'enfer.
Raphaël, manager, un extrait du nouvel album qui sortira le 22 octobre prochain sur les ondes de la radio-télévision suisse, de Radio-Canada, de la RTBF et sur France Inter.
La littérature peut tout à fait s'emparer du quotidien, du plus banal, du plus trivial. Et par ailleurs, je ne crois pas non plus que la littérature soit là forcément pour nous caresser dans le sens du poil, pour nous consoler.
La librairie francophone.
Et je crois que c'est bien aussi que les livres nous inquiètent, nous heurtent, nous provoquent, nous questionnent.
Emmanuel Kérad.
Bonjour Quentin Mouron.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans la librairie francophone. Vous êtes un jeune auteur canado-suisse. Vous avez 23 ans. Vous publiez en cette rentrée littéraire votre deuxième roman, Notre-Dame de la Merci. Et vous nous emmenez dans un petit village québécois, dans la forêt. Et c'est un espace que vous connaissez déjà, que vous connaissez bien.
Ouais, je crois que c'est bien que vous parliez de village québécois si Lucien Bouchard est en tête des ventes là-bas. Donc, c'est un village que je connais bien. J'ai vécu 10 ans là-bas. Il s'est passé toutes sortes de choses. Alors, c'était 10 ans quand j'étais gamin, donc évidemment, j'ai dû recomposer un peu les souvenirs. J'y suis retourné quelques fois. J'y ai toujours des amis. Donc, les lieux sont connus.
Et vous êtes très attiré par les déserts, ces lieux où, a priori, il ne se passe pas grand-chose. Et dans votre histoire, dans ce petit village perdu comme ça au milieu de nulle part, il y a une forme d'insularité. C'est-à-dire que les habitants vivent des histoires banales qui se transforment assez vite en drames. Est-ce justement ce retrait du monde qui amplifie les sentiments, qui amplifie les personnalités ?
Oui, je pense que tout gonfle, évidemment. Quand on est seul, quand on est face à soi-même, il y a plus rien. Il y a même plus de courant, il y a plus aucun contact avec le monde extérieur. Les routes sont à moitié condamnées, donc il faut vraiment... Ouais, je pense que ça permet de se recentrer sur soi, et les personnages sont vraiment confrontés à eux-mêmes, et c'est ce qui peut créer le déclenchement qui est censé monter en tragédie.
Alors les personnages, justement, il y a Odette, une femme courtisée par deux hommes avec l'un qui a la tête dure, un indépendant, et puis un autre qui a un cœur d'artichaut, qui est naïf, et ils sont comme ça tous les deux liés à cette femme qui trafique de la cocaïne. Alors l'un est engagé volontairement, hein, voilà, ça l'arrange bien, et l'autre c'est plutôt malgré lui. Le seul point commun qu'ils ont, finalement, c'est une vie assez pathétique.
Oui, je pense que c'est vraiment le côté rêve brisé. Je crois que c'est vraiment l'élément qui les fait se rencontrer.
Alors vous écrivez justement, le rêve, c'est bon pour les autres, pour ceux qui gagnent, pour ceux qui parviennent. Mais nous, on va nulle part et on est seul. Alors, on ne rêve pas. Vous croyez qu'on renonce à ses rêves parce que on est résigné, ou est-ce que c'est une forme de sagesse ?
Non, je crois pas que c'est une forme de sagesse. Après, la sagesse se greffe un peu par après, parce que ça nous arrange bien. C'est pour ça que les petits trucs de développement personnel marchent aussi bien. On préfère, ça nous permet, une fois qu'on est devant l'échec, d'essayer de broder avec des artifices. Mais à mon avis, non, je pense que c'est vraiment je pense que ce qui est dit dans le livre est juste.
La résignation, c'est ça.
Voilà, exactement. Ouais.
Et quand on aime alors, quand on aime ou quand on est aimé par ceux que l'on désire, hein, parce que c'est ça le problème souvent, est-ce que c'est plus facile du coup de réaliser ses rêves ? Est-ce que nos rêves sont liés à nos histoires d'amour ?
Oui, je pense que c'est une part très importante. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas, ça j'en sais rien, je n'ai pas encore identifié, disons, dans mes connaissances, mais... Oui, je pense que c'est quelque chose, moi en tout cas, qui m'a passablement affecté. Je ne vais pas rentrer dans le côté trop pathos, on va...
Allez-y, je vous en prie.
Non, mais enfin, c'est quelque chose qui m'a affecté.
Quand on a lu votre livre.
Oui, c'est vrai que finalement, on va encore pousser un peu l'impudeur.
Donc, alors allez-y, dites. Oui.
Non, mais je pense que moi, ça a été un moteur pour moi, le fait d'aimer une fille, de ne pas être aimé en retour. Ça m'a poussé à écrire le premier livre. Je me suis dit, bah, merde, maintenant je vais essayer de lui en mettre plein la vue, on va faire un truc... Ça n'a pas marché du tout, bien sûr, c'était zéro. Mais au moins, ça a quand même été. J'ai quand même tenté la chose, et je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait avancer.
Ah, vous avez écrit un livre pour séduire une fille, vous ?
Ouais, mais j'ai jamais osé lui le dire, donc ça fait une belle chambre.
Bah maintenant, c'est dit. Elle s'appelle comment ? Non, on va laisser la place à nos libraires à travers la francophonie. Alors Mathieu, pour la France, justement, vous avez bien aimé ce livre.
Oui, il est, parce qu'il est glauque, il est malsain, il est oppressant, il est misérable. Je me suis régalé. C'était un bon moment. Votre écriture est parfaite, en fait. Elle souligne, elle sert vraiment toutes ces personnalités très misérables qu'on peut rencontrer dans le roman. Bon, je réserverai ça aux amateurs de romans noirs. Néanmoins, c'est vraiment une pépite qu'on lit d'un trait.
Voilà, Déborah, pour la Belgique, êtes-vous d'accord ?
Ben oui, plutôt oui. Parce que moi, à peine à avoir ouvert ce roman, la première page lue, ben, je me suis sentie installée dans votre univers et proche quelque part de vos personnages. Et puis cette impression de véracité que j'ai ressentie, votre acuité à dépeindre les petites gens et la précision du quotidien, ça m'a curieusement, mais pas si curieusement, vu ce que vous avez dit tout à l'heure, rappelé notre Georges Simenon national à nous.
Oula, sacrée comparaison.
Ah.
Quant à Mourant.
Moi, je commence à rougir, là. Heureusement que c'est pas la télévision. Donc j'ai... Non, merci. En tout cas, ça a fait plaisir. Ça fait chaud au cœur d'entendre aussi ces retours internationaux. Parce qu'évidemment, j'ai des contacts avec quelques libraires suisses dans mon entourage, mais j'ai pas encore eu de retour des libraires étrangers, donc c'est parfait.
On va aller où vous avez vécu, au Canada. C'est très important pour vous, avec Manon Trépanier, qui va donner son point de vue. Qu'est-ce que vous pensez de ce livre ? Attention, Manon.
Ben écoutez, Emmanuel, pour moi, ça a été une très, très belle surprise. Ce qui m'a surtout séduite dans ce livre-là, c'est la compassion que Quentin Mouron manifeste à l'égard de ses personnages. Puis, par extension, aux hommes, avec un grand H, il a une véritable tendresse pour tous ceux qui éprouvent de la tristesse, les moins bien nantis. Et puis, en plus, ben écoutez, chauvinisme oblige, j'ai trouvé qu'il rendait très, très bien l'atmosphère de l'hiver québécois. Il a bien saisi l'enfermement que plusieurs peuvent ressentir dans des petits villages isolés.
L'enfermement et l'angoisse aussi, Quentin. Tout au long de votre histoire, on assiste aux angoisses de vos personnages. Ils se questionnent sur la vie. Jean perd son père qui s'est suicidé par pendaison. Odette s'interroge sur son trafic qui lui a fait perdre beaucoup de choses. Daniel est amoureux, piégé dans une histoire de procès, manipulé aussi par Odette. Et cette angoisse, vous montrez qu'elle est constituée de résidus, de quelques parasites comme ça.
Oui, je pense. Évidemment, quand je construis des personnages comme ça, déjà, je prends un substrat réel. Donc, ce sont des gens qui sont... j'ai utilisé un matériau qui est assez triste à la base. Donc, En le remettant, je pense qu'il y a en effet tout ça qui s'ajoute. C'est pas un thriller avec une série de endiablés de péripéties et tout. Donc c'est vraiment c'est assez simple. Ça finit même un peu en queue de poisson. Enfin donc je pense que c'est vraiment
des particules comme ça.
Voilà, exactement. Qui... Je pense que vraiment ça se joue sur l'ambiance, sur le style, et puis aussi évidemment sur ces personnages qui sont là dans l'hiver, dans la neige, dans la tempête, et qui doivent se débattre avec ça, quoi.
Laura, pour la Suisse, que pensez-vous du roman de Quentin Mouron ?
Oui, alors moi, en tant qu'autre compatriote de Quentin Mouron, moi, j'ai eu du mal à entrer dans cette histoire, en fait. J'ai eu du mal à être proche de ce trio infernal et je suis restée un peu à l'extérieur de ce qui leur arrivait. Par contre, j'ai été très intriguée par un quatrième personnage, si j'ose dire. Et je dis intriguée parce que tout au long du roman, je ne comprenais pas vraiment son statut. Donc, est-ce vous, Quentin Mouron, ou un autre, ou un narrateur invisible ? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est à cette voix que je me suis attachée.
Il y a un narrateur, effectivement, qui accompagne toute l'histoire et qui accompagne aussi vos personnages. Et on ne sait pas qui c'est vraiment. Est-ce que c'est vous, l'écrivain, ou peut-être est-ce que c'est Dieu ?
Dieu, oui, enfin Dieu différemment, c'est plutôt moi quand même, plutôt moi que Dieu.
Non, je crois que Dieu différemment, vous comparez à Dieu, vous. Non, mais on pourrait croire que c'est une voix comme ça, mystique. Il y a cette histoire d'église où personne ne va. Les gens renoncent d'ailleurs à croire en Dieu. Et cette petite voix de la sagesse comme ça qui accompagne.
Je pense que les thèmes sont mystiques, sont métaphysiques. Ouais. Après, non, je pense que j'avais envie, moi personnellement, de réinvestir les lieux, de mettre les pieds dans le plat. Et puis j'avais envie de pouvoir m'approcher des personnages, de pouvoir presque même à la fin les toucher, quoi, carrément. Le jeu a son importance, mais ça reste un jeu qui est moi, quoi.
C'est pas un peu trop, ça, quand l'auteur s'approche aussi près des personnages ? Laurent Godet, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous avez jamais fait cet exercice
de... Non, mais ça m'intéresse. Pourquoi pas ? Non, je pense qu'il n'y a rien d'interdit. Hein. Après, on est là aussi pour chercher, pour explorer. Je pense que donc c'est une solution qui est assez belle, à dire vrai, d'un espèce de regard surplombant qui ne dit pas précisément qui il est. Moi, je trouve ça plutôt intéressant.
Et du coup, alors, les personnages, vous les trouvez comment, Quentin ? Vous les aimez bien, hein ?
Oui, je les aime bien, je crois. Même les trois, oui, ils ont quelque chose d'attachant. Et j'ai essayé de les rendre le plus accessible possible aussi.
Ils vous ressemblent un peu ?
Oui, je pense. Ouais, je pense.
Oui, l'amour transi, peut-être.
Oui, plutôt, peut-être, j'allais dire.
C'est ça. Merci beaucoup, Quentin Mouron. Merci infiniment. Notre-Dame de la Merci est publié aux éditions Olivier Moratel, un roman concis qui nous interroge sur le destin et la capacité à rêver dans un monde souvent austère. Merci, Quentin.
Merci
dans un instant, nous nous glisserons dans la plus grande librairie du monde avec nos libraires et nous irons dans l'appartement de Jacques Prévert, situé dans le quartier du Moulin Rouge à Paris. On poursuit avec une sublime chanson de Barbara. Voici Göttingen en cadeau pour vous. Bonne soirée ou bonne journée à travers le monde avec la librairie francophone.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen, pas de quai et pas de rengaine qui se lamentent et qui se traînent. Mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. À Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine. Et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles. À Göttingen, à Göttingen, nous avons nos matins blêmes et l'ombre grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même. À Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes,
mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la. Tout de même à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Voilà, Barbara, la belle voix de Barbara, Göttingen sur France Inter, la radio-télévision suisse, la RTBF et Radio-Canada.
Emmanuel Kérade.
Et toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires qui vont vous parler des livres dont on parle dans toutes les catégories. Et on commence dans le rayon des beaux livres de la librairie Goulard à Aix-en-Provence, avec vous Mathieu Colombe.
Oui, et avec le très beau catalogue d'exposition sur Edward Hopper, dont l'expo va se dérouler incessamment sous peu à Paris.
À Paris, oui.
Qui va en fait donc nous présenter la totalité de l'œuvre de Hopper, avec des choses qu'on a certainement, je pense, jamais vues. Le texte est très super super important parce qu'il va développer en fait tous les à côté et va expliquer un peu pourquoi du comment de l'œuvre de Hopper. Enfin vraiment, c'est une somme
très complète,
c'est énorme, c'est très complet, très intéressant et le livre est magnifique.
Et c'est aux éditions des Musées Nationaux,
oui, à la RMN.
Voilà le catalogue de l'exposition d'Edward Hopper. Merci Mathieu pour la catégorie des livres de poche. On part dans les rayons de la librairie à lire au Québec, Manon Trépanier.
Et oui Emmanuel. Il y a Anaïs Barbeau-Lavalette qui avait écrit « Je voudrais qu'on m'efface ». Ça vient tout juste de paraître en poche à la Bibliothèque québécoise, collection BQ. C'est un livre qui met en scène des jeunes d'un quartier défavorisé de Montréal. Ils sont tous plus ou moins abandonnés parce que les parents font face au chômage, à la prostitution, à la consommation d'alcool et de drogue. C'est écrit d'une façon très visuelle. Anaïs Barbeau-Lavalette, c'est aussi une grande réalisatrice qui s'apparaît. Il y a beaucoup de dialogues. C'est écrit dans une langue crue et très réaliste. C'est bouleversant. Emmanuel, je vous jure, vous adoreriez.
Oui, vous m'aviez déjà dit ça. Je devais le lire. Je ne l'ai pas encore lu. Mais maintenant qu'il est en poche, je vais procéder à cette lecture. Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est d'ailleurs une jeune personnalité très respectée dans le milieu artistique québécois.
Et pour cause.
Et pour cause. Je voudrais qu'on m'efface aux éditions BQ Bibliothèque québécoise. Merci Manon. Tout de suite, je vous emmène dans l'appartement de Jacques Prévert à Paris à l'occasion de deux livres parus aux éditions textuelles autour du cinéma et de l'amitié. Amitié chère à l'artiste. Carole Rouet, spécialiste de Prévert, nous a accueillis à la Cité Véron, boulevard de Clichy, derrière le fameux Moulin Rouge. Un moment rare et un entretien dans une ambiance exceptionnelle pour la librairie francophone. Voilà, le 6 bis de la Cité Véron. Voilà, nous sommes arrivés dans l'appartement qui fut habité par Jacques Prévert, ici derrière le Moulin Rouge avec une magnifique terrasse. Bonjour Carole Rouet.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir ici. Vous publiez la semaine prochaine deux livres autour de Prévert. L'un magnifique sur le cinéma de Prévert, l'autre plus petit sur le thème de l'amitié. Et dans ces deux ouvrages, il y a des dessins. Prévert dessinait partout, tout le temps.
Prévert aimait beaucoup dessiner, il aimait beaucoup la peinture, il aimait beaucoup le dessin. Il disait que malheureusement, il était doué comme un enfant de 4 ans et encore un enfant de 4 ans qui n'aurait pas su dessiner.
Oui, c'est ça.
Mais c'est pas tout à fait juste d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il dessinait constamment, notamment sur ses éphémérides qui sont ces grandes pages d'agenda qu'il se créait tous les jours, sans doute à partir des années 50 parce qu'on a du mal à les dater, et qu'il dessinait ici, la Cité Véron, sur le bureau qui est juste devant nous.
Alors voilà, nous sommes dans le bureau de Jacques Prévert, installé installé sur une banquette. On a un bureau en bois devant nous, des disques avec plein de livres, évidemment, qui ont jauni, puisque tout est resté en état ici.
Oui, tout est resté en état. Jacques Prévert est venu dans cet appartement à partir de 1955. Il y a effectivement beaucoup de choses qui sont très à l'image de Prévert. Beaucoup de livres et beaucoup de séries noires, puisque c'est Prévert qui a trouvé le nom, séries noires, de la collection littéraire. Et puis, plein de petits objets fort cocasses, des petites boîtes avec des araignées qui sautent quand on les ouvre.
Des surprises, oui.
Voilà. Et puis, aussi beaucoup de marques de son anticléricalisme, des détournements du pape sur des petites cartes postales notamment.
Alors on va se lever, on va arriver sur ce bureau avec une boîte là qui est très attirante parce que ce sont les fameux crayons Carandache. Alors on fait un petit peu de publicité exceptionnellement, mais on a exactement là, hein, tels qu'ils étaient avant sa mort, des crayons, on a des pastels et on voit d'ailleurs sur ces éphémérides qu'il dessine des fleurs.
Oui, tous les jours, en fait, il se crée une grande page pour noter les rendez-vous de sa journée. Et il commence par dessiner une immense fleur sur ses éphémérides. Alors parfois, il y a même plusieurs fleurs. Ce sont toujours des grandes fleurs assez piquantes qui ressemblent à la fleur qu'il préfère. Et en l'occurrence, c'est l'adonide, goutte de sang. Et sur ses éphémérides, il écrit le jour de la semaine, mais très rarement le mois et l'année. Si bien qu'il faut vraiment être un Sherlock Holmes pour essayer de les reconstituer, de les dater et de les reclasser chronologiquement. Et sur ses éphémérides, il inscrit tous ses rendez-vous. Alors là, on a un défilé de noms assez prestigieux parce que les amis de Prévert sont aussi bien des peintres comme Picasso, qui est un de ses meilleurs amis, que des acteurs comme Garance, Arletty, bien sûr, ou comme...
Paul Grimaud aussi.
Paul Grimaud. Alors, Paul Grimaud, il y a un petit code cryptique. Parce voilà. Que, en fait, quand vous voyez sur ses éphémérides un petit chat jaune, c'est qu'en fait, il s'agit de Paul Grimaud parce que Prévert l'appelait le bon chat jaune.
Et l'amitié est très importante pour Prévert, une amitié solide, fidèle. Ici, dans cet appartement, ses amis étaient comme chez eux, c'est ce que l'on dit en tout cas, mais il exigeait en retour une loyauté absolue.
Oui, tout à fait, c'était quelqu'un donc, pour qui l'amitié était capitale. Il donnait toujours énormément pour ses amis, énormément de temps, énormément d'argent aussi. C'était toujours une amitié qui était très solidaire, très agissante. Il a, par exemple, aidé ses amis juifs, le décorateur Trauner et le compositeur Cosma, à travailler pendant l'occupation sur les visiteurs du soir et sur les enfants du paradis, alors qu'ils n'avaient pas le droit de travailler. Il les a cachés aussi dans une demeure dans le sud de la France, au-dessus de Tourette-sur-Loup. Donc c'était quelqu'un qui donnait beaucoup, mais qui en retour, demander effectivement la même loyauté, le même investissement. Et ce qui est drôle, c'est que cette amitié, elle naissait souvent d'un coup d'œil, c'était assez instinctif, et finalement, il avait un instinct qui le trompait très rarement, parce que toutes les amitiés de jeunesse ont perduré toute sa vie.
Un véritable coup de foudre à chaque fois, l'amitié se mêle au professionnel, on va quitter ce bureau, Carlo Rouet, avec les tomates provençales, hein, qui ont été installées dans cet appartement à sa demande. On arrive dans le salon avec une cheminée qui est encore là, et puis cette fameuse terrasse. Alors là, il y a une grande histoire, parce que déjà, d'une part, on voit le Moulin Rouge, de dos, je dirais, l'avenue de Clichy qui passe, et une terrasse immense. Et sur notre gauche, il y a un autre appartement, légendaire lui aussi.
Oui, un autre voisin légendaire, c'est Boris Vian. Parce qu'en fait, cette terrasse est partagée entre les deux, entre l'appartement de Boris Vian et l'appartement de Jacques Prévert. Ce sont en fait des dépendances du Moulin Rouge. C'était d'anciennes loges des danseuses du Moulin Rouge et qui ont été transformées en appartements. Donc Prévert a été très attiré par cette idée qui lui plaisait beaucoup d'habiter dans les anciennes loges des danseuses.
Oui.
Et il a aménagé à partir de 1955 ici. Vian habitait ici déjà depuis 2 ans.
Voilà, et derrière cette porte qui est juste là.
Derrière cette porte qui est juste là. Et ils ont partagé cette terrasse et ce lieu pendant 4 ans, puisque Boris Vian est mort en 59, 4 ans après.
Et Prévert est très atteint hein, par cette disparition. On a une terrasse donc comme ça, pleinement ouverte, à 360 degrés, avec une carcasse de moto, avec une sculpture de chat. On est déjà un peu dans l'ambiance de Vian, entre Vian et Prévert, avec ces choses un peu surréalistes comme ça qui surgissent.
Oui, et puis qui sont restés de cette période. On a l'impression d'être dans un lieu protégé qui est resté un peu protégé du temps, qui
intact,
est intact,
oui,
intact tout ça. À fait. Avec cette vieille moto qui, je crois, je ne veux pas dire d'erreur, mais appartenait à Vian d'ailleurs.
Alors dans ce livre sur l'amitié que vous avez réalisé, Carole Rouet, il est question d'Arletty, de Jean Gabin, de Pierre Brasseur, de Simone Signoret, Yves Montand. Et on a tendance à l'oublier, mais le poète est à l'origine d'une centaine de scénarii pour le cinéma.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il est toujours bon de rappeler les films très connus qui sont signés Prévert. Il ne faut pas l'oublier, comme Le Quai des Brumes, Drôle de Drame, Les Enfants du Paradis, Les Visiteurs du Soir, Le Crime de Monsieur Lange, les dessins animés avec Grimaud, Le Roi et l'Oiseau, etc. Donc une filmographie passée à la postérité, mais qui est vraiment conséquente. Mais au-delà de tous ces chefs-d'œuvre, il a écrit effectivement une centaine de scénarios qui sont restés soit sur le papier parce qu'ils ont été censurés, et puis il a aussi écrit des scénarios qui ont été détournés. C'est-à-dire qu'au moment du tournage, on a changé un certain nombre de choses. Et Prévert, ne se reconnaissant pas dans le film, a refusé de les signer.
Et vous racontez dans ce livre la rencontre entre Signoret et Montand. Et c'est à l'origine Prévert qui les présente, un peu malgré lui. Ça se passe sur les hauteurs de Nice, à Saint-Paul-de-Vence, à la Colombe d'Or.
Tout à fait, à la Colombe d'Or. Signoret, Prévert la connaît depuis quelques années. Elle a fait une petite figuration dans Les Visiteurs du Soir. Et puis, il entre dans la salle de la Colombe d'Or accompagné de Signoret. Et Montand est là. Avec Crolla d'ailleurs, et la rencontre se fait ce jour-là.
Deux guitaristes,
et la rencontre se fait ce jour-là, et Prévert sera d'ailleurs le témoin de leur mariage.
Debout devant le zinc, sur le coup de 10 heures, un grand plombier, 5 heures habillé en dimanche, et pourtant c'est lundi.
On va aller dans l'une des chambres, si vous le voulez bien, Carole Rouet. Avec ici même, donc on parle de ses amis évidemment, Mouloudji qui est un peu la mascotte, vous expliquez ça dans le livre, il a 13 ans, il vient ici et en fait il n'y a aucune discrimination, ni d'âge, ni d'origine.
Non, c'est vrai que l'amitié de Prévert elle est très éclectique, c'est tous les âges, tous les sexes, toutes les origines, tous les métiers. Et en fait le petit Mouloudji quand il a 12-13 ans, il rencontre Prévert, Jean-Louis Barrault, toute la bande du groupe Octobre. Et ensuite Prévert va lui donner des petits rôles pour le cinéma et il aura un petit rôle dans Génie de Marcel Carné, la première collaboration entre Prévert et Carné.
Disparaît dans le soleil tout en continuant sa chanson.
Autre amitié très importante qui a marqué l'histoire de l'art, en tout cas une période de l'histoire de l'art, c'est cette rencontre avec Calder, avec Miro et avec Picasso. Alors Miro-Picasso, il y a une grande passion de Prévert pour ces deux personnages. Alors voilà, on va aller dans le couloir, parce qu'il y a un grand couloir. Allez-y, je vous en prie, Carole. C'est un petit peu étroit, avec ces murs blancs, ces tomettes, ces éphémérides que l'on trouve à l'entrée encadrées avec ces fleurs qui sont telles quelles dans le livre, reproduites en tout cas, et surtout un collage. Et Picasso était fasciné par les collages de Prévert et lui disait « Tu ne sais pas peindre, tu ne sais pas dessiner, mais tu es un peintre ».
Tout à fait. Prévert a trouvé par le collage à partir des années 50 un moyen de dessiner, de peindre, ce qu'il ne savait pas faire sinon. Et là, on a dans l'entrée, chez lui, un collage qui est un autoportrait, ce qui est assez rare dans ces collages, avec une cigarette, évidemment, et puis une couronne de végétaux. Il a fait énormément de collages dans la dernière partie de sa vie, très attentif à tous les détails, et même par exemple au Marie-Louise qu'il crée autour de ces collages.
Et Prévert a une passion pour Picasso, c'est presque un dieu pour lui.
On va retourner sur la terrasse. C'est un autre peintre d'ailleurs, Fromanger, qui disait que Picasso était quasiment un dieu pour Prévert s'il avait dû avoir un dieu, et que quand le téléphone retentissait ici, c'était Véron, et que c'était Picasso, il en avait toujours les larmes aux yeux, il était extrêmement ému.
Autre histoire que vous racontez, Carole, avec ses portraits des amis de Prévert, c'est la relation avec le photographe Robert Doisneau. Prévert adore la photo, il se prête volontiers au jeu du portrait dans la rue, dans les rues alentours d'ailleurs. Et Prévert est une sorte d'égérie masculine, si on peut dire, pour Doisneau.
Oui, oui, c'est vraiment une égérie masculine. Déjà, Doisneau explique que c'est Prévert qui l'a promené dans des endroits tout à fait méconnus de Paris, qui l'a initié un peu à ses promenades, qu'après il n'a jamais arrêté. Et il aime bien poser. Il faut qu'il ait confiance, c'est toujours une histoire d'amitié, il faut qu'il y ait eu ce coup d'œil et cette confiance qui soit née. Et il pose pour des grands photographes, puisqu'il est ami avec Doisneau, mais il est aussi ami avec le grand photographe Émile Savitri, avec Izzy, Savikila, et Brassailles aussi, parce que le premier livre de Prévert, Parole, paru en 1946, donnait à voir sur la couverture une photographie de Brassailles, un graffiti de Brassailles.
Et Doisneau rendra hommage à Prévert avec un livre magnifique et des photographies de Prévert qui sont aujourd'hui restées célèbres. C'est très émouvant de se retrouver là, vraiment, parce qu'on a l'appartement là que je vois là de Boris Vian. On a cette table aussi et tout cet environnement comme ça qui est resté tel quel. On imagine très bien les amis de Prévert ici. Merci beaucoup, Carole Rouet.
Merci à vous.
On va terminer cet entretien reportage. Hein, c'est un peu ça ici sur cette terrasse de Jacques Prévert. Votre livre, vos livres, L'amitié selon Prévert et le cinéma dessiné de Jacques Prévert sortent aux éditions textuelles mercredi 10 octobre. Merci beaucoup de nous en avoir parlé en avant-première. Merci Carole.
Merci à vous.
Deuxième partie de la chronique des libraires. On va dans le rayon des romans contemporains dans cette plus grande librairie du monde. Et nous sommes justement dans la librairie belge de Déborah Damblon. Et Déborah, je crois que vous avez un client autour de vous.
Une cliente.
Emmanuel,
voilà.
Passez-la moi, tiens.
Je vous la passe. Allô ?
Bonjour madame, c'est Emmanuel Kérat. Vous êtes dans la librairie francophone ?
Oui, merci.
Qu'est-ce que vous avez acheté comme livre justement ?
Acharnement de Mathieu Larnaudy.
Très bien. Vous connaissez Laurent Godet ?
Oui.
Bon, eh bien écoutez, il est avec nous, il sera avec nous sur le plateau. Vous écouterez l'émission pour son dernier roman qu'il faut absolument acheter. Merci beaucoup madame. Passez-moi Déborah, s'il vous plaît.
Au revoir.
Au revoir, à bientôt.
Voilà Emmanuel.
Parfait. Écoutez, bonne ambiance chez vous. Hein. Il y a l'air d'avoir du monde en tout cas.
Vous connaissez la licorne.
Allez-y. Donc, quel est le roman contemporain qui a attiré votre attention, Déborah ?
Eh bien, Emmanuel, est-ce que vous connaissez la Norlande ?
Non, pas vraiment.
Non. Eh bien, c'est un minuscule pays que vous devez imaginer, niché entre la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Et en Norlande, il fait bon vivre. Le climat n'est pas très ensoleillé, mais il est constant. Tous les jours, la même chose. Et les habitants, eh bien, ils sont aussi accueillants et joyeux que leur plat national, le flan au caramel. Bref, c'est un roman joliment absurde, comme vous vous en doutez, pétillant, qui va vous emmener en même temps très loin et tout tout près.
Bienvenue en Norlande de Véronique Sels aux éditions Genèse. Merci beaucoup Déborah pour la catégorie des bandes dessinées. On va dans les rayons de la librairie du Boulevard à Genève avec vous Laura Sanchez.
Oui, alors moi j'ai un bijou de bande dessinée à vous proposer, du noir et du blanc uniquement. Une belle couverture toilée et juste une tête de mort sur la couverture. Ah. C'est Renégat d'Alex Baladi.
Ça va faire plaisir à Mathieu, la tête de mort. Tiens.
Oui, je pense aussi. Peut-être à Quentin aussi, non ?
Oui, aussi à Quentin. Il adore le hard rock.
Peut-être,
oui.
Donc, cet auteur suisse roman très prolifique nous emmène cette fois dans une cellule de prison. Il y a un pirate qui y croupit et qui reçoit la visite d'un écrivain qui est en quête d'une bonne histoire pour son prochain livre. Donc, nous assistons à un dialogue un peu absurde et rigolo entre ces deux figures, emmenées par un dessin vraiment magnifique et très inventif en fait. C'est vraiment à découvrir. Donc une petite merveille proposée par un petit éditeur de Poitiers, j'ai nommé The Hoochie Coochie.
Ah bah tiens, belle référence au jazz. Alex Baladi, Renégat. Merci beaucoup Laura. Dans un instant, nous serons avec l'écrivain Laurent Godet pour son nouveau roman, un livre épique et passionnant autour d'Alexandre le Grand. On poursuit cette émission avec le nouveau titre du groupe bordelais Eiffel. Vous écoutez la librairie francophone sur Radio-Canada, Radio France, la radio-télévision suisse et la RTBF.
Mon pas chute dès l'encan, le tien doré à l'orfin d'Orient.
Eiffel, le même train sur Radio-Canada, la RTBF, la radio-télévision suisse et sur France Inter.
Les aléas, on ne les maîtrise pas. Les coups du sort, on ne les maîtrise pas. Reste une chose, c'est la beauté de l'homme quand il est capable de s'accrocher à son désir et à cette très belle chose, énigmatique mais séduisante, qu'est la volonté humaine.
La librairie francophone.
J'aime bien les personnages qui sont lucides sur eux-mêmes et qui se racontent au lecteur, en fait.
Emmanuel Kérad.
Laurent Godet dans la librairie francophone pour son nouveau roman. C'est impressionnant cette musique. Hein. Le seul cortège paru chez Actes Sud, Laurent Godet, vous avez reçu en 2002 le prix Goncourt des lycéens et le prix des libraires en 2003 pour La mort du roi de Songor, le prix Goncourt en 2004 pour Le soleil des Scorta, puis il y a eu Eldorado, La porte des enfers, Ouragan pour lequel vous étiez venu. On vient de vous entendre d'ailleurs. Cette citation là d'ailleurs de vous, la beauté de l'homme qui s'accroche à son désir et à la volonté. Vous le trouvez beau, Alexandre le Grand ?
Ah oui, sans aucun doute.
Malgré les massacres ?
Monstrueux et donc, j'allais dire beau. C'est-à-dire qu'il est compliqué, il est intéressant et il y a une forme de beauté, évidemment. Sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Il a fasciné les gens autour de lui, les peuples qu'il a rencontrés. Et il est beau de cela. Il est beau surtout, si je peux juste ajouter ça, il est beau d'avoir en lui une faille. C'est-à-dire que ce n'est pas un conquérant qui bombe le torse pendant 10 ans. C'est un personnage beaucoup plus en creux, beaucoup plus étrange, opaque, et qui avance avec une profonde insatisfaction.
Alexandre le Grand, né en 356 avant Jésus-Christ, mort à 32 ans, roi de Macédoine qui régnait de la Grèce aux Indes, en passant par l'Égypte et ce qui deviendra plus tard la Syrie et l'Iran. Il fonde 70 cités, il voulait vraiment conquérir le monde, cet homme-là. Et jusqu'à son lit de mort, on le voit dans votre roman, on le lit en tout cas, il y a un nouveau défi, une nouvelle guerre. Même au bord de la mort, il veut relever le défi, tout le temps.
Tout le temps. On parlait de renoncement tout à l'heure ou de résignation, ce qui peut arriver effectivement dans nos vies, dans nos petites vies à tous, bien sûr. Alexandre le Grand, il est fascinant justement pour ça. C'est quelqu'un qui ne se résigne jamais, qui est du côté de l'encore, encore, encore, encore et toujours, au détriment de ses propres forces, parce qu'on peut imaginer que mort à 33 ans, c'est aussi parce qu'il s'est brûlé totalement de l'intérieur, et au détriment aussi des forces de ceux qui l'accompagnaient, qui ont fini par ne plus en pouvoir du tout. Il avait le projet, même sur son lit de mort, de repartir sur des conquêtes du côté de ce qui est aujourd'hui le Maghreb. Il était furieux d'avoir raté la rencontre avec l'Inde. Enfin, c'est quelqu'un qui avait envie d'embrasser le monde entier. Ouais.
Et ce qu'il a réussi, au détriment de nombreux massacres quand même, c'est une unité politique unique entre l'Orient et l'Occident, et on n'a jamais connu ça depuis.
La folie d'Alexandre, elle se situe là, et c'est ça qui est passionnant, c'est que non seulement il arrive à battre Darius et l'Empire perse, mais qu'ensuite, immédiatement après, qu'est-ce qu'il fait ? Il intègre les Perses à sa propre armée, avec ce rêve fou, là je suis d'accord avec vous, hein, il y a quelque chose de fou dans tout ça, dans ce geste, mais avec le rêve fou de créer une nouvelle civilisation. Et très concrètement, il y a cet épisode de ce qu'on appelle les noces de Suse, où il se marie, lui, avec la fille aînée de Darius, et où il demande à 10 000 Macédoniens d'épouser 10 000 Perses, avec l'idée que va naître de cette nuit-là de noces, un peuple nouveau, un peuple bâtard et nouveau.
L'union entre les peuples, oui. Ouais.
On est loin du choc des civilisations.
Oui, mais ça va loin en tout cas là. Pour le coup, c'est vraiment la concrétisation du métissage et du rassemblement des peuples. C'est,
oui,
c'est
alors
très étonnant,
politiquement, ouais. C'était peut-être fou et irréaliste et complètement dément comme projet. Hein. Moi, je ne le soutiens pas. Mais par contre, ce que ça révèle de l'homme, ça, je trouve ça passionnant. C'est-à-dire que ça révèle quand même chez lui le désir d'être d'abord de relever ceux qui viennent de battre. Et il n'a pas cessé de faire ça, de tendre la main et d'intégrer ceux qui venaient de vaincre. Et puis, ça révèle aussi une profonde curiosité quand même insatiable. Vis-à-vis des peuples qu'il ne connaissait pas. Il faut voir que c'est ce qui le différencie d'un Napoléon que je déteste cordialement ou d'autres, c'est que lui, quand il avance, il va au-devant de mondes qui sont inconnus.
Ouais, ouais. Alors dans votre roman, Alexandre, empoisonné, se meurt, il se bat, ne renonce jamais, mais la maladie est quand même plus forte que lui. Et cet homme qui ne sait pas mourir, ce sont vos propres termes, laisse venir la mort, il l'affronte en face. Mais le pire dans l'histoire, ce n'est pas ça, c'est la conséquence de sa mort. Parce qu'il n'a pas de successeur à sa taille.
Alors, il faut imaginer ce moment historique réel absolument hallucinant où tout d'un coup, parce que Alexandre finit par mourir, après 7 jours d'agonie, l'Empire suspend son souffle et il y a un temps comme ça d'arrêt, de silence, qui n'a pas duré très longtemps parce qu'immédiatement s'enclenche un autre processus qui est celui de la guerre intestine. Mais il y a quand même ce temps du deuil où tout d'un coup, de la Macédoine jusqu'à l'Indus, c'est-à-dire le Pakistan aujourd'hui, sur tous ces kilomètres-là, sur des terres immenses, tout s'arrête et on attend. On apprend d'abord la nouvelle et ensuite on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Et là, il y a ce qui se passe toujours dans ces cas-là, il y a un Yalta de l'époque. Les 10 ou 12 compagnons d'Alexandre se mettent autour d'une table comme nous aujourd'hui, sortent les cartes, les stylos et disent « bon ben voilà, toi tu prends l'Égypte, toi tu prends la Syrie, on découpe ». Et c'est des moments que je trouve moi absolument vertigineux parce que ça se passe en une nuit. Et ça dessine non seulement le monde dans lequel ils vont vivre, mais ça dessine aussi les siècles à venir.
Oui, mais sauf qu'il y en a qui ne sont pas contents.
Toujours, c'est le principe.
Donc, c'est ça le problème, il y en a qui ont des ambitions. Alors du coup, c'est la guerre, l'Empire se déchire complètement, les massacres commencent. Déborah, pour la Belgique, je crois que vous aimez bien Laurent Godet. Donc à mon avis, vous avez bien aimé ce livre.
J'aime bien Laurent Godet et j'adore ses romans. Et pour moi, au-delà de toutes leurs qualités, c'est avant tout une musique, les romans de Laurent Godet. Un vrai souffle littéraire, et je garde de chacun des livres un écho en mémoire. Mais il y a aussi quelque chose que je trouve encore plus admirable que le son de ses textes, et bien ce sont ses personnages de femmes. Parce qu'elles sont si belles, elles sont si fortes, elles sont si droites, que c'est des femmes à qui on rêverait toutes de ressembler. En tout cas, moi.
Ah, les femmes de Laurent Godet, les femmes, justement, Laura pour la Suisse, il va en être question avec vous.
Oui, alors moi, je ne suis pas très attirée par les romans historiques, même quand c'est écrit Laurent Godet sur la couverture. Mais je vous avoue que je me suis fait prendre par votre souffle, effectivement, par l'intensité de votre écriture. Et effectivement, la chose que j'avais envie de relever, ce sont ces figures féminines dans cette galerie très vaste de personnages, et surtout des mères. Et je pense évidemment à Dryptéis, surtout en première position, dont vous faites, je trouve, une figure carrément héroïque.
Il y a une femme qu'il faut sauver, Laurent Godet, celle qui restera fidèle à Alexandre, celle qui fut la femme de son plus proche compagnon, de son meilleur ami, de son amant aussi, dit-on, celle qui aura un fils illégitime pendant le deuil, celle qui vit vraiment par amour de la vie. Il faut sauver Dryptéis. Quel symbole pour vous, cette femme-là ?
Dryptéis, c'est une jeune femme. Elle doit avoir 25 ans à tout casser quand l'histoire se passe. Et pour moi, c'est Hécube, mais Hécube jeune. C'est-à-dire qu'Hécube, elle a tout perdu au terme d'une longue vie. Dryptéis, elle a tout perdu au terme d'une courte vie. Il faut quand même imaginer qu'elle a vu un empire vaciller. C'est pas donné à tout le monde. Elle l'a vu très concrètement, sous ses yeux. Elle a vu son père fuir sur le champ de bataille. Ça l'a chargée à la fois, j'imagine, à la fois d'une profonde tristesse, probablement, et puis d'une espèce de dépôt comme ça, avec le sentiment que l'histoire avec un grand H broie les vies. Et elle veut dorénavant vivre cachée pour échapper à ça.
Vous écrivez « Quelque chose doit être sauvé de la laideur de ce monde, et c'est elle. Il faut que Dryptéis soit sauvée pour qu'une chose au moins échappe au chaos. »
Oui, et puis moi j'ai envie...
C'est un peu la figure mystique quand même.
Oui, et puis le roman ne peut pas s'organiser sans Dryptéis, parce que le projet n'a jamais été de faire un roman historique ou une biographie d'Alexandre le Grand.
Et pourtant
il y a de ça, je me nourris de ça.
La fin de sa vie, en tout cas.
Oui, mais le livre est à l'endroit, pour moi, du dialogue entre ces deux personnages. S'il n'y a pas Dryptéis, s'il n'y a pas la voix des vaincus, il n'y a pas la folie du mélange des peuples. Et donc, effectivement, c'est un chant à deux voix.
Manon, pour le Canada, malgré cette belle héroïne, je sais que vous aimez beaucoup les belles héroïnes, ce livre ne passe pas vraiment chez vous.
Ben, écoutez, malgré sa grande beauté formelle, Emmanuel, là, c'est vrai qu'il y a un souffle lyrique, grandiloquent, classique. Moi, je n'ai pas été émue. J'ai été déçue parce que j'aime le Laurent Godet de Soleil d'Escorta, de Ouragan, et là, je suis carrément passée à côté, malheureusement.
Mathieu, pour la France, vous n'êtes pas du tout d'accord.
Absolument pas. J'ai adoré le souffle épique, je me suis régalé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre et d'être énervé d'arriver à la fin parce que je me dis c'est pas possible, ça va s'arrêter, je veux pas que ça s'arrête. Surtout à partir du moment où le cortège, le dernier cortège se met en marche, c'était absolument fantastique, on est obligé de le suivre. C'est le roman à lire de la rentrée, voilà.
Voilà, Laurent Godet, les avis des libraires. Votre roman, il est forcément épique, puisque l'on assiste à la mort, à la succession comme ça d'Alexandre le Grand. Il est aussi oral. On a envie de lire ce texte à haute voix, comme si vous vouliez comme ça donner un son à cet épisode de l'histoire, ou comme si vous vouliez définir même une voix pour Alexandre. C'est une déformation du théâtre, ça, non ?
Oui, je pense. Oui, oui. Moi, c'est les voix qui me font écrire. C'est-à-dire que plus que le décorum, là, non, pour Seul Cortège, plus que l'univers, plus que l'époque, c'est la voix d'Alexandre qui m'a mené jusqu'au livre et la voix de Triptéis. Donc, j'écris probablement parce que je viens effectivement de l'écriture dramatique et que ça reste pour moi une activité d'abord constante et très importante. J'ai envie de ça. J'écris pour la voix et j'ai envie de dire, même mes romans, tous mes textes sont faits pour être lus à voix haute. Ça ne veut pas dire que si personne ne lit jamais à voix haute pour Seul Cortège, je serais déprimé et mécontent, mais c'est simplement qu'au moment où je les travaille, je me dis finalement la finalité de ces phrases-là que j'essaye d'enchaîner et de trouver, c'est la profération. Alors, ceux qui n'aiment pas, effectivement, je comprends, hein, disent grandiloquent ou lyrisme, moi, c'est ce que j'essaye d'attraper, d'attraper une énergie du souffle de la voix, il n'y a pas d'autre mot. Je trouve que c'est aussi une belle revanche par rapport à l'écrit qui a tué la tradition orale, d'essayer dans les livres de retrouver cette énergie du vivant.
Alors tout cela au détriment de l'histoire un peu, Laurent, parfois, parce que vous faites une fresque historique, malgré tout, malgré ce que vous dites. Vous vous arrangez un peu avec les personnages aussi, il y a quelques incohérences comme ça. Je pense au médecin Glaucos, qui n'est pas le médecin en fait d'Alexandre le Grand. C'est Alexandre le Grand qui le crucifie parce que à la mort de son meilleur ami, le fameux Glaucos, voilà, n'a pas réussi à le soigner. Donc il y a des personnages vrais, des personnages à moitié fictifs. Comment faites-vous ce choix-là? Pourquoi à un moment Glaucos apparaît dans cette histoire alors qu'il n'a rien à y faire?
J'assume totalement ce regard sur l'histoire. Moi, je suis là pour piller l'histoire. C'est-à-dire, je prends ce qui m'intéresse pour ma fiction, je laisse ce qui ne m'arrange pas. Mmh. Alors, dans certaines mesures, je ne peux pas tout mettre cul par-dessus tête, mais quand même, si à un moment donné, il y a une scène qui s'impose, quitte à tordre un peu la réalité, je serai toujours du côté de la torsion de la réalité. Tout simplement parce que j'écris un roman. Les gens qui veulent savoir ce qui s'est passé en moins 323 avant Jésus-Christ, il faut qu'ils lisent un roman historique. Ce n'est pas mon objet. Je ne suis pas à cet endroit-là.
Mais vous suivez pas mal l'histoire. C'est toujours le débat, ça, quand il y a des romans qui suivent de très près l'histoire. Parce qu'il y a un danger quand même pour le savoir, la connaissance.
Bien sûr,
quelqu'un qui s'arrête à votre livre, il n'a pas de bonnes informations. En tout cas, oui, il n'a que des informations partielles, voire des erreurs.
C'est un risque. Et l'honnêteté que je me suis trouvé, moi, par rapport à ce projet-là, évidemment, pour ne pas tromper le lecteur, c'est de poser très très vite dans le roman, je crois que ça arrive à la page 10, l'arrivée d'un personnage qui s'appelle Héricléops, qui est un cavalier sans tête. Et qui
décapité.
Parle. À partir, pour moi, du moment où le lecteur rencontre ce personnage, il sait qu'on sera dans un code de lecture qui est plus du côté de la mythologie. Donc, je n'ai pas l'impression de tromper qui que ce soit. J'amène l'épopée, j'amène le mensonge ou le fantastique, appelez-le comme vous voulez. Y a des cavaliers sans tête qui parlent, il y a des armées de morts qui ressurgissent de la terre. Il y a tout ça. Je vous raconte une histoire. Je me nourris de l'histoire avec un grand H, mais je la tords aussi parce qu'on est dans le mythe.
Merci beaucoup Laurent Godet, merci. Votre nouveau roman pour Seul Cortège est publié aux éditions Actes Sud, un livre qui fait un peu débat dans notre équipe, vous l'avez entendu, mais dont les sujets sont passionnants, épiques et effrayants. À vous donc qui nous écoutez de vous faire une opinion. Merci à vous, merci Quentin Mouron, merci à tous nos libraires dans les pays francophones, au revoir à tous.
Au revoir.
Oula, vous êtes très en forme, c'est bien, continuez comme ça, bonne semaine à vous, en Suisse, en Belgique, en France, au Canada et à travers le monde.
La librairie francophone.
Et c'est la fin de cette édition coproduite et diffusée par Radio France, la RTS, la RTBF et Radio-Canada. Toutes les infos sur l'émission, c'est sur la librairiefrancophone.com et je vous retrouve sur les réseaux sociaux pour communiquer avec vous. À la réalisation, Lucien Pénaud avec Fabrice Desmaz, Muriel Pérez à la programmation musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Ilinka Negulesco en France, Martine Béguin-Felet avec Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Elput en Belgique, Martine Hippolyte avec Jocelyn Lebeau au Canada. La semaine prochaine, nous serons avec Charlie Delwart, Philippe Delerme et Manu Larsonnet. Merci pour votre fidélité. À bientôt, salut. We'll be right back.
La librairie francophone, un point sur le trafic.
Infotrafic RTS.
Avec Faigle, solution d'impression pour les entreprises.
On roule sans difficulté pour l'heure sur les autoroutes romandes et les conditions de circulation sont généralement bonnes. Dans le canton de Vaud, la route suisse est toujours fermée dans les deux sens au niveau de la localité de Mille. Veuillez suivre la signalisation mise en place. Par ailleurs, en raison de la course populaire Morat-Fribourg, la route cantonale entre Morat et Fribourg sera fermée à toute circulation demain, dimanche, entre 8h et 13h. Veuillez vous référer à la signalisation qui sera mise en place. Pour plus d'informations, le numéro 163 est à votre disposition. Il vous en coûtera 90 centimes l'appel et 90 centimes la minute.
L'heure avec le magazine Open et son application sur iPad.
18h sur la première, Forum est présenté par Alexandra Cohen.